Bienvenue à Question d'aujourd'hui, émission qui vous est présentée par l'Office de catéchèse du Québec en collaboration avec Radio-VM et Radio-Galilée. Au micro, Renaud Grégoire, c'est un plaisir d'être avec vous et aujourd'hui, nous allons parler du travail. Le travail pour une participation au développement social. Et nous avons comme invité Simon Labrecque, adjoint au secrétaire général de l'Assemblée des évêques catholiques du Québec et secrétaire du Conseil Église et Société. Bienvenue, Simon.
Bonjour, Renaud. Merci de m'accueillir.
Merci d'être là parce que ce message donc du 1er mai, c'est un message qui est traditionnel. Donc, chaque année, les évêques catholiques du Québec publient un message du 1er mai.
Exact. C'est une tradition qui remonte à 1974. Donc, les évêques catholiques du Québec publient un message de quelques pages à chaque année sur un thème lié au travail. Parce que le 1er mai, c'est la Journée internationale des travailleuses et des travailleurs. C'est aussi la fête de Saint-Joseph ouvrier ou Saint-Joseph artisan, qui est comme le saint patron des travailleurs et des travailleuses. Donc, chaque année, le Conseil Église et Société de l'Assemblée des évêques catholiques du Québec est chargé de proposer ce message-là, de proposer un thème aux évêques et d'élaborer donc un message. Et c'est ce qu'on vient vous présenter aujourd'hui.
Et le Conseil Église et Société, quel est son mandat?
Alors, l'Assemblée des évêques catholiques du Québec, c'est un lieu de concertation, de partage, d'échange entre les évêques de tous les diocèses catholiques du Québec, incluant d'ailleurs les éparchies des églises orientales, par exemple les Maronites et les Melkites et les Syriaques qui ont leur siège au Québec, donc qui sont présents au Canada, mais qui ont leur siège au Québec. Et l'Assemblée, donc, c'est un lieu où les évêques prennent des initiatives, lancent des projets, réfléchissent à des questions ensemble à l'échelle de la province du Québec. Et pour ce faire, ils ont séparé ou ils ont développé trois conseils qui ont chacun un domaine d'intérêt particulier. Donc, il y a le conseil Église et Société, celui dont je suis secrétaire, qui s'intéresse à l'ensemble des enjeux sociaux, à la place de l'Église dans la société, mais aussi aux messages que l'Église peut transmettre ou aux interpellations de l'Église par rapport à différents enjeux sociaux. On pense à la pauvreté, on pense à la liberté de religion, par exemple, ou à la dignité de la vie. Les deux autres conseils sont le conseil communauté et ministère, qui est un conseil qui s'intéresse beaucoup, on pourrait dire, à la vie interne, si on veut, de l'Église. Donc, comment fonctionnent les communautés chrétiennes, la paroisse, par exemple, quels sont les différents ministères, ministères ordonnés, mais aussi des nouveaux ministères qui se développent dans l'Église au Québec, le travail des agentes et agentes pastorales, par exemple. Et puis, il y a le conseil évangélisation et vie chrétienne qui s'intéresse à la formation, la formation des jeunes, mais aussi la formation continue des adultes et comment on peut développer une foi mature en Jésus-Christ, comment on peut porter le message de l'Évangile. Donc, ces trois conseils sont chargés d'observer la société et de proposer des projets, proposer des réflexions aux évêques. Et chaque conseil est formé de trois évêques et de peut-être quatre ou cinq personnes, souvent des laïcs. Il y a parfois aussi des membres de communautés religieuses qui sont choisis, qui sont nommés pour des mandats de 3 ans en fonction de leur expertise, de leur spécialité, de leur parcours. Donc, pour ce qui est du Conseil Église et Société, on a des membres qui sont impliqués dans des mouvements sociaux, par exemple Mères au front ou des mouvements écologistes, mouvements d'accès aux transports en commun, par exemple. Et on a aussi comme membre d'office le directeur de Mission chez nous, qui est un organisme de solidarité chrétienne avec les premiers peuples.
Alors donc, le Conseil Église et Société a comme tâche, entre autres,
oui,
de réfléchir sur une dimension, donc une problématique particulière pour ce qui est du travail. Et à partir de cette analyse que vous faites de la société, vous choisissez un angle particulier pour le message du 1er mai.
Exactement. Et puis cette année, on a choisi un thème, comment on pourrait dire, un thème plus général que d'autres années, on a choisi de revenir à la question même du travail et puis à la question de la dignité du travail. Qu'est-ce qui fait qu'un travail, qu'un emploi a du sens pour la personne qui le fait et que nous enseigne donc l'Église, que nous enseignent les évangiles aussi sur le sens du travail et quelles conditions sont nécessaires pour avoir un travail dans lequel on peut s'accomplir, s'épanouir, un travail qui soit une source de joie, de fierté. Donc, c'est à cette question-là qu'on s'est attardé cette année. Donc, une question qui est la question même du travail, si on veut. Et puis, le titre qu'on a développé, c'est « Un travail digne pour une participation véritable au développement social ». Donc, comment la dignité du travail peut outiller les personnes pour qu'elles puissent se sentir, se concevoir et puis agir comme des personnes qui participent véritablement au développement de leur société.
Alors, quand vous parlez de développement social, donc c'est développement de la société, dans le sens que le travail des personnes participe à ce qu'il y ait un mieux-être ou devrait participer à ce qu'il y ait un mieux-être pour l'ensemble des membres de la société.
Exact. Dans l'enseignement social de l'Église, il y a cette notion du bien commun qu'on utilise. Donc, le travail ne vise pas seulement à ce qu'il y ait des profits financiers là, pour les personnes ou pour une entreprise, mais vise à contribuer au bien commun, donc au développement de la société dans son ensemble. Et c'est dans cette perspective-là qu'on a proposé de revenir à la notion chrétienne du travail. Et puis ce thème-là a été choisi un peu en réponse à des grandes transformations qu'on observe dans le monde actuel. On sait que du côté économique, par exemple, dans les dernières années, il y a eu l'inflation des prix, par exemple. Il y a des phénomènes comme la crise du logement qui mène à l'itinérance. Il y a la question des travailleurs migrants, des travailleurs étrangers, des conditions de travail qu'on est capable de leur offrir. Et toutes ces questions-là, à nos yeux, aux yeux du Conseil Église et Société, remettaient ou soulevaient la question de la dignité du travail. Et puis, il y a aussi des changements plus techniques, si on veut, mais comme par exemple l'arrivée de l'intelligence artificielle, dont on parle de plus en plus, et qui transforme aussi les conditions de travail, le type de travail que les gens font, et le sens qu'on peut attribuer au travail, dépendamment du type d'emploi qu'on occupe.
Simon Labrecque, adjoint au secrétaire général de l'Assemblée des évêques catholiques du Québec et secrétaire du Conseil Église et Société, avant de plonger dans le texte même de ce message du 1er mai, pouvez-vous nous dire un peu particulièrement qui sont les personnes qui ont travaillé à ce texte-là? Comment ça se passe? Comment on arrive à partir d'une observation, d'une problématique ou d'un constat, vous arrivez à proposer un message chaque année le 1er mai?
Oui, donc le message du 1er mai est lui-même le fruit du travail de certaines personnes, si on veut, travail qui est en partie bénévole. Les membres du conseil s'engagent bénévolement dans cette activité-là. La rédaction se déroule de façon particulière chaque année. Il n'y a pas de recette miracle, si on veut. Parfois, on fait appel à un ou une intervenante spécialisée. Cette année, on avait, disons, dans nos rangs du Conseil Église et Société, une personne qui était bien outillée pour nous rappeler d'abord l'enseignement social de l'Église sur la question du travail, donc depuis Léon XIII jusqu'à Léon XIV, donc depuis la fin du 19e siècle et la révolution industrielle, lorsque l'Église catholique a développé ce qu'on appelle sa doctrine sociale, qui est une réponse aux nouvelles conditions de vie que les ouvriers, les ouvrières et les individus avaient là, dans ce nouveau contexte de la révolution industrielle. Et donc, parmi nos membres, il y avait Frédéric Barriot, qui est un historien du christianisme social. Et c'est Frédéric, cette année, qui a fait la première ébauche, si on veut, le canevas du texte et qui a aussi donc proposé les grandes sections et les concepts clés là, du texte. Et puis, ben, comme tout travail éditorial, si on veut. Là, il y a eu des réécritures, des choix qui ont été faits. Vous allez remarquer que le langage du message du 1er mai cette année est pas, c'est pas un langage spécialisé. Il y a sur des questions sociologiques ou des questions économiques, on peut recourir à des concepts là, très, très précis, très développés. Mais on a choisi, pour rejoindre le plus grand nombre de personnes possible, de garder un niveau de langage compréhensible là, par un bon nombre de personnes. On pourrait dire un langage qui n'est pas savant. Donc, on a eu ce souci-là. Et on a toujours un souci aussi, c'est très technique, là encore, mais par rapport à la longueur du message. On sait que l'attention des gens, notre attention, on s'inclut dans ça, là, avec l'accès au téléphone cellulaire, l'accès aux réseaux sociaux. On parle d'une attention un peu fragmentée, qui est moins habituée de lire des longs textes. Donc, le texte qu'on propose fait quelques pages seulement et avec des courts paragraphes. Et donc, on aurait pu donner un grand nombre d'exemples, par exemple, de types d'entreprise ou de types de gestion du travail, retourner dans les détails de l'histoire aussi, de l'accompagnement que l'Église a offert à certaines luttes pour les conditions de travail. Mais on a choisi donc de rester quand même à un niveau plus général de la réflexion pour pas trop alourdir le message lui-même.
Et vous signalez dans ce message à la fin, effectivement, la contribution de Frédéric Barriot, qui est malheureusement décédé en mars 2026, oui. Et qui était membre du Conseil Église et Société depuis plusieurs années.
Oui, depuis janvier 2019. Donc, c'est un signe de reconnaissance là, pour le travail effectué par Frédéric, puis une façon aussi de saluer sa mémoire.
Simon Labrec, vous commencez ce message du 1er mai. Le travail peut-il être une source de joie, de fierté, d'épanouissement? Vous le faites sous forme de questions et c'est très intéressant. Est-ce que ça ne peut pas partir une discussion ou une prise de conscience personnelle et collective?
Oui, tout à fait. C'est un des objectifs de lancer une discussion, d'accrocher ou de susciter l'intérêt des personnes qui le lisent aussi. C'est une question qui peut sembler provocante, dépendamment du moment où on la lit, mais parfois, en sortant du travail, on peut être assez fatigué, épuisé d'une journée ou d'une semaine plus difficile. Donc, il y a une petite provocation peut-être dans cette idée-là. Est-ce que le travail peut être une joie, une fierté, une source d'épanouissement? Ça ne l'est pas toujours, mais notre message, en fait, c'est que ça peut l'être et que ça devrait l'être. Donc, un travail qui a du sens. Donc, ça peut exister, ça devrait exister. Et puis, ensuite, le reste du message s'intéresse à comment cela peut-il se faire. Donc, quelles conditions sont nécessaires pour qu'un travail soit une source de joie, de fierté et d'épanouissement.
Est-ce que cette question s'adresse aussi aux employeurs?
Oui, tout à fait. Ça s'adresse donc à la fois aux employés et aux employeurs, aux entrepreneurs. On s'intéresse aussi, donc en s'intéressant au travail de façon générale, on ne fait pas nécessairement de différence entre l'entreprise privée et le service public. Donc, ça peut concerner aussi les fonctionnaires. Je dirais même que ça peut concerner les gens à la retraite, donc qui ont terminé ce qu'on appelle parfois de façon un peu inadéquate, la vie active, mais c'est-à-dire le travail, alors qu'on sait que nombreuses personnes à la retraite sont très actives. Et ça peut aussi concerner les plus jeunes, donc avant l'entrée proprement dite sur le marché du travail. En fait, la question du travail, c'est aussi qu'est-ce qu'on fait de nos journées, quelles sont nos actions, quel type de production on fait, à quel processus aussi de création on participe. Et puis, dans les conditions d'un travail digne, il y a bien sûr la question du salaire, la question des conditions de travail. C'est une question qu'on avait abordée de façon plus spécifique en 2019, justement, dans un message qui soutenait la campagne 5-10-15 du collectif pour un Québec sans pauvreté, qui revendiquait alors de connaître son horaire 5 jours d'avance, d'avoir 10 jours de congé pour raisons personnelles ou familiales chaque année et un salaire minimum de 15 $ l'heure à l'époque. En 2019, c'était ça la revendication. Donc, il y a tout cet aspect des conditions de travail et du salaire, mais il y a aussi dans la question de la dignité du travail, du sens du travail, toute la question de la participation au processus de décision, au processus de gouvernance, si on veut, de l'entreprise, qui est un des sujets qu'on aborde dans le message cette année.
Le message du 1er mai 2026 par le Conseil Église et Société de l'Assemblée des évêques catholiques du Québec avec Simon Labrecque, un message qui s'intitule « Un travail digne pour une participation véritable au développement social ». Et dans ce message, Simon Labrecque, on rappelle qu'il y a une conception chrétienne du travail. Le travail est vu de manière très particulière pour des croyants, des croyantes.
Oui, tout à fait. C'est une conception qui est présente dès le premier livre de la Bible, donc dès le livre de la Genèse, lorsqu'on considère que Dieu, au septième jour de la création, a contemplé son œuvre avec satisfaction. C'est le jour du sabbat. Et c'est intéressant de considérer le travail à partir de cette journée-là où, justement, on ne travaille pas. Ce que nous dit cette journée-là, donc ce septième jour, c'est que le travail qui a été fait dans les jours précédents avait un sens, donc qui était un travail de création, celui de Dieu. Et dans le travail qui était et qui demeure, par exemple, celui des artisans, celui des artisanes, on a cette proximité-là avec le processus de création. Et dans la perspective chrétienne, on considère que le travail parachève l'œuvre créatrice de Dieu. Donc, on s'inscrit, on est créé à l'image de Dieu et on parachève son travail par le travail humain. Donc, c'est un sens très, très profond du travail, un sens aussi spirituel qu'on cherche à faire redécouvrir.
Et en même temps, dans cette partie de votre message, il y a aussi, vous mentionnez la perte du sens et de la valeur du travail.
Oui, parce que ce travail de création, par exemple, et qui a un sens, on pourrait dire, immédiat, qu'on peut avoir de la facilité à contempler, il disparaît, ou en tout cas, il se dilue dans ce qu'on appelle la gestion scientifique du travail. Donc, à partir de la révolution industrielle, à partir du 19e siècle, avec l'arrivée des chaînes de montage et tout ça, les ouvriers, les ouvrières ont accès à une toute petite partie du travail, par exemple, il s'occupe de sur une chaîne de montage, par exemple, on peut s'occuper de visser tel et tel boulon qui ensuite va faire une voiture ou un autre objet de ce type, et on voit pas nécessairement l'ensemble du produit fini. Ça rend plus difficile ce qu'on appelait la contemplation de l'œuvre du travail. Et puis cette organisation-là du travail, cette fragmentation du travail, ça isole les personnes qui travaillent. Et on remarque qu'avec la rationalisation du travail dans d'autres secteurs, comme par exemple l'éducation et la santé, cet isolement-là est aussi vécu par des personnes donc, qui travaillent dans d'autres secteurs là, que simplement ou que la manufacture ou que les chaînes de montage. Là. Donc, c'est cet isolement des travailleurs, cette fragmentation des tâches nous fait perdre de vue souvent le sens global de ce qu'on est en train de faire, du processus auquel on est en train de participer par notre travail.
Dans la deuxième partie de votre message, vous parlez de l'épanouissement et qu'il y a un lien entre l'épanouissement au travail et la qualité de vie. Qu'est-ce que vous mettez en évidence dans cette partie du message du 1er mai?
Alors, on sait que un travail à temps plein, par exemple, ça peut nous occuper de 35 à 40 heures par semaine. Donc, ça a un effet très clair là, sur comment on peut se sentir. C'est-à-dire que ça peut être l'essentiel du temps qu'on passe là, dans une semaine, dans un mois. Et donc, comment est vécu l'expérience du travail, les conditions de travail, ça a nécessairement un effet sur comment on fait l'expérience de notre vie d'être humain sur cette terre. Puis ça concerne toutes les personnes qui travaillent, peu importe leur contexte. Et nous, on pense que pour qu'un travail ait du sens. Donc, c'est pas seulement d'avoir des conditions adéquates en termes de salaire, de sécurité au travail, par exemple, mais il y a aussi la dimension de la participation à la gouvernance des entreprises et des lieux de travail. Donc, on pense que pour libérer son plein potentiel et avoir le sentiment du devoir accompli, c'est important de pouvoir participer aux décisions sur l'orientation même du travail qui est effectué. Et ça peut prendre plusieurs formes, dépendamment du milieu de travail.
Dans la troisième partie du message, vous faites un lien avec cette encyclique de 2015 du pape François, une encyclique, Laudato si, une encyclique qui est reconnue et vraiment qui fait école, on pourrait dire, dans à peu près tous les milieux. Mais vous faites le lien entre travail et le prendre soin de la création.
Oui, tout à fait. Dans la date aussi, le pape François utilisait une formule forte là, sur entendre le cri de la terre et le cri des pauvres. Et il liait aussi la crise environnementale et la crise sociale pour remettre en perspective, justement, les façons qu'on a de travailler et nos différentes actions. Donc, le pape nous invitait à être attentifs au seuil, au rythme écologique de notre planète et puis aux besoins des femmes et des hommes qui poursuivent l'œuvre créatrice de Dieu.
Ce qui est intéressant dans cette partie du message, c'est aussi, vous dites qu'il y a des options aussi qui existent et qu'il y a un grand nombre d'entreprises et de services publics qui se dotent de comités justement pour faire ce lien avec prendre soin de la création et avoir un travail digne.
Oui, donc il y a plusieurs formes, si on veut, là, que peut prendre la participation aux orientations du travail. Ça peut être, par exemple, dans des coopératives ou dans des entreprises d'économie sociale, donc des entreprises qui ne sont pas principalement axées sur la recherche de profit, mais sur le service de la communauté. Et puis, dans ces organisations-là, donc il y a un rôle plus grand des travailleuses et des travailleurs dans l'organisation du travail. Ça peut être une forme démocratique. Là. Il peut y avoir des façons d'organiser des conseils d'administration, par exemple, avec des votes, avec des assemblées générales, pour que les travailleuses et les travailleurs décident véritablement là, du sens à donner à l'entreprise ou au groupe là, pour lequel ils travaillent.
Simon Labrec, comme consommateur, consommatrice, et vous en parlez dans le dernier paragraphe, je disais que le message a quatre parties parce que je considérais que le dernier paragraphe est comme un appel à l'action aussi. Comme consommateur, comme consommatrice, on peut aussi avoir un rôle pour faire en sorte que les gens qui produisent des biens que l'on consomme ou des services que l'on consomme tous les jours. Hein, tous les jours, il faut faire l'épicerie, il faut prendre soin de ses biens, de sa voiture, ou on prend un transport en commun, peu importe. Est-ce qu'on peut s'intéresser aussi aux conditions de travail des gens qui nous rendent des services?
Oui, tout à fait. C'est une façon de participer en tant que citoyen, citoyenne, à un développement social plus égalitaire, plus juste, en s'intéressant peut-être à la gouvernance des entreprises, mais aussi aux conditions de travail qui sont offertes aux personnes, et puis s'assurer, ou en tout cas tenter le plus possible de soutenir des entreprises qui font un effort pour être équitables, pour offrir des conditions de travail dignes, un salaire décent et une participation active des travailleuses et des travailleurs au processus décisionnel. On peut obtenir des informations comme ça en consultant, par exemple, les sites Internet de différentes entreprises. Dans certains cas, il y a possibilité d'assister là, à des assemblées générales, des rencontres et tout ça. Et on peut s'intéresser aussi au travail de certains organismes, comme par exemple les chantiers d'économie sociale, qui mettent en valeur toute cette dimension des entreprises qui se soucient de la dignité des personnes et du service à la communauté.
Simon Labrec, comment on peut s'approprier, réfléchir, approfondir ce message du 1er mai, un travail digne pour une participation véritable au développement social?
Donc, le message du 1er mai est disponible sur le site de l'Assemblée des évêques catholiques du Québec. Il est disponible aussi sur le site Internet de plusieurs diocèses. C'est possible pour les personnes qui sont impliquées dans leur paroisse de le mettre en valeur aussi, soit sur le site Internet, dans une infolettre, un média social. Et on invite les personnes donc à lire le message seules et aussi en groupe, en faire un déclencheur de réflexion, de discussion, pour se demander qu'est-ce qu'on pense du travail dans notre milieu. Est-ce qu'on connaît des exemples d'entreprises ou d'organismes qui sont intéressants, qui offrent des bonnes conditions à leurs travailleuses et leurs travailleurs? Comment on pourrait les soutenir? Et c'est un message donc, qui est publié pour le 1er mai, Journée internationale des travailleuses et des travailleurs, mais qui est valide, si on veut, ou qui est pertinent tout au long de l'année, notamment à ce qu'on appelle la fête du travail, donc au mois de septembre au Québec. On célèbre le travail deux fois chaque année, le 1er mai et premier lundi du mois de septembre. Donc, si vous avez pas eu le temps de l'étudier ou de le lire, d'en parler ce printemps, vous pourrez le faire aussi à la fin de l'été qui s'en vient.
Simon Labrec, adjoint au secrétaire général de l'Assemblée des évêques catholiques du Québec et secrétaire du Conseil Église et Société, dont on a confié la rédaction du message du 1er mai 2026, un travail digne pour une participation véritable au développement social. Merci beaucoup de nous avoir présenté ce message.
Merci à vous.
L'Office de catéchèse du Québec reçoit le soutien de la Fondation Lucien Labelle pour la réalisation de l'émission. Merci à Yannick Caron pour Radio Galilée et Lisandre Duplé pour Radio VM. Merci de votre présence, de votre écoute. Au micro, Renaud Grégoire, et je vous dis à bientôt.